Cérémonie de la réception. Chapitre 1er. De la décoration de la loge et des meubles. Et bijoux nécessaires pour la réception des apprentis. La loge du grade d'apprenti ne doit être décorée d'aucune tapisserie. Cependant, elle peut être ornée de quelques symboles ou emblèmes maçonniques relatifs au grade, mais non personnifiés, car il ne doit s'y trouver aucune figure d'homme ni même d'animaux. Le fauteuil du vénérable maître et l'autel sont placés à l'orient, sur un gradin élevé de 3 marches et sous un dais ou baldaquin. L'autel, le fauteuil et la partie intérieure du dais sont recouverts en bleu avec galons et franges en or. Le dais peut, si on le veut, être attenant au mur oriental. Mais l'autel et le fauteuil du vénérable maître doivent en être à une distance convenable afin que le récipiendaire puisse effectuer ses voyages en passant derrière le fauteuil. Sur le mur oriental, à la hauteur d'environ 6 pieds au-dessus du gradin et cependant en dessous du dais, est représenté un triangle. Des rayons de lumière en sortent par ses 3 côtés avec cette inscription
« Été, ténébré et âme » Non comprehenderunt.
Ce triangle doit être placé contre le mur, sur un fond bleu, soit en peinture, soit en étoffe. Au-dessus et en avant du baldaquin du trône, les jours de réception, on placera un transparent sur lequel sera, en gros caractères, sur un fond noir, et sans aucun ornement ou attribut, le mot « justice ». On l'éclairera en même temps que la loge. Le devant de l'autel doit être disposé de manière à recevoir des tableaux mobiles contenant l'emblème particulier de chaque grade. Celui d'apprenti est une colonne brisée et tronquée par le haut, mais ferme sur sa base, avec cette inscription
« Aduc stat ».
Auprès de l'autel, sur la 3e marche, est un coussin recouvert d'une étoffe bleue galonnée d'or avec une équerre au milieu formée par un galon d'or. Le récipiendaire doit avoir le genou posé sur cet équerre lorsqu'il prononce son engagement maçonnique. Sur l'autel, on place un chandelier d'or à 3 branches, la Bible ouverte au 1er chapitre de Saint Jean, un compas et une équerre entrelacée, une truelle, un maillet et le rituel du grade. Au jour de réception, on y ajoute le tablier et les gants d'hommes et de femmes destinés aux candidats. Le bijou du vénérable maître ne doit point être sur l'autel, mais on le place dans la chambre qu'il doit occuper avec les officiers et dignitaires de l'ordre avant de faire son entrée en loge. À l'occident sont 2 petites tables avec 2 sièges, lesquels sont placés à une distance convenable, l'une du côté du midi pour le 1er surveillant, l'autre du côté du nord pour le 2nd surveillant. Sur chacune, on met un chandelier d'or avec sa bougie, un maillet, le rituel du grade et le bijou du surveillant. Entre l'autel d'Orient et les 2 petites tables d'Occident doit être le tapis ou tableau de la loge. On doit laisser entre les uns et les autres l'espace nécessaire pour exécuter, sans gêne ni confusion, les cérémonies du grade. Ce tapis, d'une grandeur proportionnée au local, doit former un carré long en sorte que sa largeur soit à sa longueur comme 2 est à 3. Il est entouré, dans toutes ses parties extérieures, d'une large bordure à compartiments. La partie inférieure, ou d'Occident, qui fait le tiers de la longueur totale du tapis, représente le porche du temple. Dans cette partie, et à l'angle occidental du tableau, du côté du nord, est peinte ou tracée la pierre brute, et à l'angle occidental, du côté du midi, est la pierre cubique. Au milieu, entre les deux, mais sur une ligne plus élevée, est figurée la planche à tracer. Ces 3 symboles doivent former ensemble un triangle. La partie supérieure du tapis, à l'Orient, forme un carré qui représente le temple intérieur. C'est là qu'est placée, au centre, l'étoile flamboyante à 5 pointes, ayant la lettre G peinte en or au milieu. Dans cette partie, à l'angle oriental, du côté du midi, est peint le soleil. Et à l'angle oriental, du côté du nord, est l'image de la lune dans son plein. Dans le carré supérieur et tout autour est figuré un cordon à houppe dentelée dont les nœuds descendent jusqu'au bas. L'étoile flamboyante est entouré des trois bijoux maçonniques qui forment ensemble un triangle, savoir l'équerre, au-dessus, à l'orient, le niveau, au-dessous du côté du midi, le perpendiculaire, vis-à-vis du côté du nord, l'étoile flamboyante formant le centre. La communication du porche au temple est indiquée au bas de ce carré à l'occident, par une porte fermée, accompagnée extérieurement de deux colonnes élevées sur leur base et avec leurs chapiteaux, l'une au nord et l'autre au midi. Celle du nord porte la lettre J sur le milieu de la hauteur de son fût. Au tapis de la loge d'apprenti, il n'y a aucune lettre sur celle du midi, la lettre de cette colonne étant réservée aux compagnons et ne devant point être connue des apprentis. On monte à la porte du temple par un escalier de 7 degrés, peint ou tracé dans la partie du porche en forme de portion de cercle. Le troisième degré, en montant, forme un palier avec le chiffre 3. Au cinquième degré est aussi un palier avec le chiffre 5 et, sur le septième degré, est le chiffre 7. Là commence le pavé à la mosaïque figurée en losange et formant un parvis circulaire qui se termine à la porte d'Occident, laquelle est fermée. Planche numéro 3. Autour du tapis, vers les angles du sud-est, du sud-ouest et du nord-ouest, sont trois hauts chandeliers garnis de leurs flambeaux. À l'occident, derrière les surveillants et en face du transparent portant le mot « justice », sera placé, les jours de réception, un autre transparent sur lequel sera écrit, en gros caractères, sur un fond bleu, le mot « clémence ». Ce dernier transparent sera moins élevé que le premier, et on l'éclairera de même en illuminant la loge. Avant l'ouverture de la loge, le maître de cérémonie aura soin de vérifier si chacun des objets que nous venons de décrire est disposé conformément au rituel. Les jours de réception, il vérifiera de même si les meubles nécessaires sont en état et placés où ils doivent être, savoir. 1. Les vases des éléments, c'est-à-dire une cassolette garnie d'esprit de vin pour le feu, au midi, une cuvette d'eau froide et un linge blanc, au nord, un vase plein de terre friable ou de cendres à l'occident. 2. La machine pour imiter le bruit du tonnerre, qui doit être placée à l'occident. On pourra, si l'on veut, la faire avec un cadre de bois léger de la grandeur d'environ 3 pieds au carré, environ 1 mètre carré, sur lequel seront tendues et collées ensemble quelques feuilles de fort papier, de manière qu'en secouant cette machine, une ficelle ou corde à boyaux ajustée en croix, tendue et fixée par les quatre extrémités sur le cadre même, forme, par des vibrations multiples réunies à celles du papier, un bruit à peu près semblable à celui d'un tonnerre roulant. Il est également possible d'utiliser une plaque de tôle ou tout autre moyen, après avoir vérifié qu'ils imitent valablement le bruit du tonnerre. 3. Un bâton ou roseau, garni à son extrémité d'une fine étoupe à brûler, lequel doit être mis à portée du second surveillant. On pourra, si on le juge plus commode, utiliser une pipe à lycopode au lieu de ce roseau garni d'étoupe. 4. Une éponge, ou un compas à seringue, ou tout autre instrument contenant une liqueur rouge propre à figurer l'effusion du sang. Il sera préparé de sorte que cette effusion puisse se faire sur le sein du candidat dès que le vénérable maître frappera le troisième coup sur la tête du compas. 5. Les instruments propres à éteindre et rallumer les bougies, ainsi que les cylindres destinés à voiler les 9 lumières d'ordre, lesquels seront placés à la portée de ceux qui doivent les employer. 6. Une terrine pour l'esprit de vin avec son couvercle, pour en étouffer la flamme, laquelle sera placée et allumée, au moment convenable, les jours de réception, à l'extrémité orientale du tapis de la loge. 7. Le tronc des aumônes, car la quête doit toujours se faire dans les tenues d'instruction et surtout dans celles de réception. On le placera sur la table du secrétaire.